Salut tout le monde, ici Jérémy Filosa. Bienvenue sur cette nouvelle plateforme du Gros Bon Sens, hein, qui est normalement le nom que je donne au texte que j'écris sur le site du 98.5sport.ca. Mais là, maintenant, eh bien, c'est une nouvelle formule vidéo sur les médias sociaux, audio sur la page du 98.5sport. D'ailleurs, si vous écoutez cet audio, c'est que vous êtes à la bonne place. Donc, je vais faire comme ça des podcasts avec les sujets qui m'intéressent du monde du sport, et je voulais commencer bien sûr avec cette finale du championnat canadien qui aura lieu à Toronto demain. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la page là où vous avez cliqué le diagramme que je vous ai placé avec la formation projetée pour le match de demain à Toronto, justement, une formation que je verrais bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais commençons avec l'actualité chez l'Impact de Montréal. Premièrement, bon, vous avez tous su que Saphir Taider est suspendu pour ce match-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris un carton jaune dans le dernier match, un carton jaune, alors qu'on était dans les dernières minutes du match contre Toronto, et le juge de touche qui lève son drapeau, et Saphir Taider qui va le prendre par le bras et lui baisse le bras en signe de mécontentement. Le problème, c'est que Saphir Taider avait déjà eu un carton jaune contre York, et donc deux cartons en championnat canadien, ben ça te mérite une suspension. Mais là, croyez-le ou non, Saphir Taider n'était pas au courant que ce carton-là allait mener à une suspension. Non seulement cela, mais il n'y a personne dans le coaching staff, il n'y a personne dans l'organisation qui a averti Saphir Taider et les autres joueurs qui avaient un carton jaune depuis le début de la compétition que, attention, si vous prenez un autre carton jaune, eh bien, vous allez être suspendu pour la finale. Moi, quand je regarde ça froidement, j'en reviens pas. Je suis sidéré, assommé de voir qu'on n'a pas pris le temps d'informer ces joueurs-là que, justement, ils étaient à un match ou un carton jaune d'être suspendus. Vous allez me dire, c'est la responsabilité du joueur. Oui, mais c'est la responsabilité aussi de l'organisation. Ça fait partie, notamment, des choses de base sur lesquelles on déroule lorsqu'on prépare notre match. Avertir les joueurs, dire toi, toi, toi. Parce que Saphir Taider, dans le dernier match, on peut voir qu'il avait des discussions animé avec les arbitres avant même la mi-temps. Donc, clairement, il n'était pas au courant. Et même à la mi-temps, lorsqu'il rentre au vestiaire, il n'y a personne qui l'a averti. Puisque quand il est sorti du terrain, eh bien, Wilmer Cabrera nous a dit que c'est là qu'il a appris qu'il était suspendu pour la finale. Ça fait vraiment pas sérieux. Vraiment, vraiment pas sérieux. Et ça reflète très mal sur l'organisation de l'Impact de Montréal. On avait plus d'un mois depuis qu'on avait terminé la série contre Calgary pour s'informer et savoir si, oui, véritablement, les cartons continuaient de s'accumuler pour la finale. Eh bien oui, la réalité c'est ça. Et là, ben Saphir Taider, malheureusement, va manquer la finale à Toronto. Donc ce sera un élément clé qui ne sera pas de la formation. C'est tout simplement inacceptable. Maintenant, comment est-ce que l'Impact de Montréal va faire pour justement pallier à cette perte de Saphir Taider? Ben, c'est pas bien compliqué. Parce que Saphir Taider, il jouait en position de numéro 10 la semaine dernière. C'était la première fois de la saison qu'on le voyait là. Et là, ben, il faut trouver un autre élément qui va pouvoir jouer cette position. Je pense que Wilmer Cabrera va vouloir demeurer dans le 4-2-3-1, comme vous voyez sur le schéma à votre écran. Donc, 4 défenseurs, 2 milieux défenseurs. Offensif, 3 milieux offensifs et un attaquant de pointe. Maintenant, ce que je vois, et comme vous voyez sur le schéma, je pense que l'option la plus intéressante pour Wilmer Cabrera, ce serait de déplacer Nacho Piatti qui, la semaine dernière, jouait à l'aile gauche, donc à l'endroit où, vous voyez, joue Lapalainen ou jouerait Lapalainen demain. Donc, Piatti rentre dans l'axe au milieu du terrain et on laisse la place à Lapalainen sur la gauche avec Orgie Okwonkwo sur la droite. Et ensuite de ça, ben ça permettrait à Bojan de rester en pointe parce qu'on a vu que la semaine dernière, ça a amené des belles flamèches. Ça veut dire que Maxi Urruti ne serait pas dans la 11 partant. Soit dit en passant, Urruti et Bojan ne sont pas à 100%, mais ils vont être aptes de disputer ce match-là. Mais moi, je laisserais Urruti sur le banc, peut-être même rentrer dans le match à un moment donné pour venir fatiguer les défenses des équipes adverses. Mais bon, on s'entend, là, c'est pas ça le but du tout. Le but, c'est d'avoir une attaque soutenue. Et donc, c'est la formation que je verrais. Donc, dans le fond, le seul changement, c'est qu'on placerait Piatti dans l'axe et Lapalainen sur la gauche. Bon, maintenant, défensivement parlant, c'est pas impossible qu'on ait un Bakary Sagna qui fait quand même bien, là, puis a bien fait aussi la semaine dernière contre Toronto pour dégager beaucoup de ballons dans la surface, même s'il n'est pas très grand, il a gagné beaucoup de ballons de la tête. Donc, défensivement, ça pourrait être Cabrera, Raitala, peut-être Sagna, on verra, mais sur les flancs, il faut que Broguillard soit là parce que ça nous prend trois Canadiens. Donc, avec Piette et Chaume en milieu de terrain, avec Broguillard comme défenseur latéral droit, ben ça nous donne les trois Canadiens qu'on aurait besoin. Et dans le cas de Piatti et Boyan, ce que j'aime aussi, c'est que ce sont deux gars qui se complémentent très bien. Donc, si Boyan est fatigué, ben Boyan peut rester un petit peu derrière sur une montée. Piatti peut monter et prendre sa place. Donc, ils peuvent s'interchanger de position, Boyan et Piatti, durant le match assez facilement, dépendant de qui est en rythme, qui est fatigué, qui n'est pas fatigué, qui peut monter, qui peut rester un peu plus derrière. Donc, je pense que c'est une solution intelligente, mais c'est sûr que sans Saphir Taider, ben c'est un gros morceau, malheureusement, qui manque à l'Impact de Montréal. Gros volume de jeu. La semaine dernière, il a beaucoup dérangé les joueurs du Toronto FC dans cette victoire de 1-0. Maintenant, les gens me demandent quelles sont les chances, justement, de voir l'Impact l'emporter. C'est sûr qu'avec le résultat de 1-0 à domicile, ben, t'augmentes un peu tes chances. Moi, j'avais dit la semaine dernière, avant le début de cette série-là, que je donnais à peu près 10% de chance à l'Impact de gagner cette série-là. Ben, présentement, mon optimisme est un petit peu meilleur. Je les mettrais à 35%. Mais je donne quand même au Toronto FC un bon 65% de chance de l'emporter parce qu'ils sont à domicile, parce que c'est une équipe qui, présentement, a le vent dans les voiles, parce que c'est une équipe qui est en santé, même si samedi, contre le LAFC, Toronto a utilisé pendant 90 minutes Michael Bradley, par exemple, Josie Altidore aussi, Omar Gonzalez, le grand défenseur central qui va nous donner toutes sortes d'ennuis. Ces trois gars-là ont joué 90 minutes à LA et il y a aussi bien sûr, Pozuelo qu'on a reposé, je crois, on l'a sorti à la 72e minute de jeu. Donc lui pourrait être un peu plus reposé, mais il risque d'y avoir quand même une certaine fatigue accumulée chez le Toronto FC qui risque de lancer tous ses meilleurs sur le terrain à Toronto mercredi soir. Maintenant, c'est sûr que si Nacho nous sort un petit tour de magie comme il a fait dans le match numéro 1, puis on le sait qu'il est capable de le faire, et aller chercher un deuxième but, bien, ça forcerait Toronto à en marquer 3 pour éliminer l'Impact de Montréal. Donc là, ce serait une mission beaucoup plus compliquée. Comme j'en ai parlé sur les médias sociaux un peu plus tôt la semaine dernière, on s'est posé la question, est-ce que l'Impact est mort? Puis moi, j'ai répondu, avec Piatti, tout est possible. Bien, on l'a vu la semaine dernière avec ce superbe but qu'il a marqué. Et donc, Piatti pourrait faire la différence dans cette série-là aussi. On se croise, bien sûr, les doigts. Et ce match-là, soit dit en passant, il va être web-diffusé sur les ondes du 98.5sport.ca, donc sur la page où vous êtes actuellement, sur la page Frontispice des sports, vous allez voir, là, il y a un onglet où c'est écrit « Écoutez le match de l'Impact », là, il y a mon visage avec celui d'Arcadio, là, donc sur la page Frontispice, en descendant un peu, c'est assez facile à repérer, donc nous serons en direct de Toronto pour la retransmission de ce match-là. Et écoutez, il y a bien des gens qui nous disent « Ah, le championnat canadien, c'est un prix de consolation », non. C'est pas un prix de consolation. Rentrer dans la Ligue des champions, c'est un privilège. Ça fait depuis 2015 que l'Impact n'y est pas allé. Donc, s'il se qualifie en 2020, ça va déjà avoir fait 5 ans. Vous savez, l'Impact s'est rendu en finale de la Ligue des champions en 2015. Je ne sais même pas si je vais revoir ça de mon vécu. Mais pour avoir une chance de peut-être se rendre, ben, il faut accéder à la Ligue des champions. Et ça fera en sorte qu'au mois de février prochain, ben, on entrerait dans la saison 2020 avec des matchs de haute importance de Ligue des champions contre des équipes qui vont s'être qualifiées, que ce soit un champion mexicain ou américain ou de la Jamaïque ou de n'importe quel autre pays de la CONCACAF. Donc, ça va devenir extrêmement intéressant. Donc, moi, je me croise les doigts et je sais que l'Impact est négligé dans cette finale-là, mais on est à 90 minutes. 90 minutes de sentir l'odeur de la Ligue des champions en 2020. Et ça m'excite. Ça m'excite au plus haut niveau. Et pour moi, ben, si l'Impact rate les séries éliminatoires, et il semble que ce sera le cas, ben, je serai satisfait du fait qu'on aura gagné le championnat canadien et qu'on aura du soccer de la Ligue des champions. On va se le dire, là, vous qui suivez l'Impact depuis longtemps, plusieurs des plus grands moments de l'histoire de l'Impact de Montréal ben, se sont déroulées en Ligue des champions. Ce sont les images que les gens ont encore en tête, notamment le but de Cameron Porter contre Pachuca, encore de finale Ligue des champions 2015. Cette finale contre Club América qu'on est allé disputer dans le stade de l'Azteca, un des stades les plus mythiques de l'histoire du soccer. La série contre Santos Laguna, ce sont tous des moments marquants de l'histoire de l'Impact qui sont passés, bien sûr, via la Ligue des champions. Donc, à ne pas négliger du tout si jamais l'Impact est capable de sortir un petit miracle demain soir à Toronto. Les autres histoires qui rôdent autour de l'Impact, ben, il y a cette histoire de Balou. Balou Jean-Yves Tabla, qui a été, entre guillemets, laissé de côté pour les deux derniers matchs, comme ce qu'on appelle LT Scratch dans le monde du sport. Un joueur qui est en forme, qui est en santé, mais qui est laissé de côté. Wilmer Cabrera nous a expliqué après la pratique de lundi qu'il était venu s'excuser auprès de l'entraîneur pour son geste, entre guillemets, qui a nui à l'équipe et qui a fait en sorte qu'il était à l'écart pour les deux derniers matchs. Tony Marinaro rapporte que mardi dernier, c'est un entraînement à huis clos, Jean-Yves Balou-Tabla s'est présenté en retard à l'entraînement, comme on dit en bon québécois, il est passé tout drette et ben ça y a mérité deux matchs de suspension. Et là, Jean-Yves, il va falloir qu'il se réveille. Pas juste le matin pour aller à l'entraînement, mais il va falloir qu'il se réveille entre les deux oreilles parce que des chances, il y en a eu. Puis je vais vous dire une chose, il n'y a pas d'autre club que l'Impact de Montréal qui lui permettrait de faire autant de gaffes et qui continuerait de lui donner des chances. Il a vu comment ça s'est passé en Europe, là, pas le temps de niaiser. Tu ne fais pas l'affaire, ben, tu es sur le banc, tu ne joues pas. Ça a été très difficile pour lui en Europe. Et là, l'Impact, là, un peu de nulle part, est allé le sauver de sa situation. Et il n'y a pas un club sur la planète qui voudrait plus que Jean-Yves Balou-Tabla continue de progresser et devienne un bon joueur de la MLS. Ce serait tout à l'avantage de l'Impact de Montréal d'avoir un local comme ça qui ferait partie du 11 partant et qui pourrait faire la différence, mais on n'est pas parti pour ça. Et c'est pour ça que je dis que Balou, il est mieux de se réveiller, parce que si vraiment d'ici la fin de l'année, il n'impressionne pas, ben ça se peut qu'à la fin de l'année, l'Impact dise au FC Barcelone, vous savez quoi? On n'a pas de besoin, gardez-le, puis le FC Barcelone, ils vont tout simplement le libérer. Et où va se retrouver Jean-Yves Balou-Tabla, je ne sais pas, peut-être dans un club de la CPL, mais la chance qu'il a présentement que lui donne l'Impact, c'est une chance en or, parce qu'il n'a rien cassé depuis un an et demi, puis comme j'ai dit, si ce n'était pas un Québécois, probablement qu'il n'obtiendra pas cette chance-là. Donc Jean-Yves, réveille-toi s'il vous plaît, parce que tu es en train de scraper ta carrière présentement. L'autre dossier intéressant, c'est celui de Rod Fanny. Vous avez vu Rod Fanny jouer samedi à Los Angeles, écoute, il avait l'air d'un poisson dans l'eau, il avait l'air d'un jeune homme. Il a connu un très bon match et c'est à se demander comment ça se fait. Comment ça se fait que Rod Fanny n'était pas habillé et n'était pas partant contre Cincinnati la semaine précédente alors qu'on avait absolument besoin d'une victoire? Est-ce que Rod Fanny aurait fait la différence contre Cincinnati? Je ne sais pas. Peut-être qu'on n'aurait pas pris ce but-là tôt dans le match, mais je peux vous dire une chose. Cincinnati a stationné l'autobus après la première minute de jeu, et avec tous les centres et corners qu'on a tirés dans ce match-là, peut-être que Rod Fanny aurait été capable d'en mettre un dans le fond du filet, surtout après l'expulsion d'un gars comme Kendall Waston, qui est la plus grande cible du FC Cincinnati. Avec lui, hors des pattes, peut-être que Fanny aurait été capable d'en mettre un dans le fond du filet. Je m'explique très mal cette décision. Et non, Rod Fanny ne jouera pas demain soir. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé trop tard et on n'a pas été capable de le mettre sur la liste des joueurs éligibles pour le championnat canadien. Alors, ça fait un petit peu le tour. On va se retrouver, nous, à 19h, donc mercredi soir, en direct de Toronto, ici même, sur ce même site web, pour cette finale du championnat canadien entre l'Impact de Montréal et le Toronto FC. On va se croiser les doigts en espérant un bon résultat pour l'Impact de Montréal et surtout un bon spectacle. Et on espère voir les joueurs de l'Impact soulever la coupe à la fin de ce match-là sur le territoire du Toronto FC. Et dans mon cas, ben, je vous dis à bientôt. Et vous allez voir, là, cet hiver, vous allez voir de plus en plus de petits podcasts audio comme celui-ci sur différents sujets dans le monde du sport, pas seulement l'Impact de Montréal. Donc, lorsqu'il y aura des nouvelles, je vais commenter en milieu d'après-midi pour justement vous assurer d'avoir une analyse complète d'une nouvelle qui peut tomber sans avoir à attendre à 18h30 là, lorsque les amateurs de sport prennent leur envol. Alors, Jérémy Filosa ici qui vous dit à bientôt. Salut tout le monde.